Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta présence en ces lieux. Je te remercie pour l'invitation que tu nous fais, Seigneur, et merci déjà de nous avoir interpellés au travers de cette louange, de nous avoir rappelé combien tu es un Dieu grand, combien tu es bon, combien tu es puissant et majestueux, Seigneur. Je te prie, Père, que ta parole puisse nous interpeller ce matin, qu'elle puisse venir changer nos vies, corriger ce qu'il y a à corriger, fortifier ce qui doit être fortifié, Seigneur. Mais merci par-dessus tout parce que tu es un Dieu de douceur et de paix. Merci parce que tu prends compassion. Et qu'en aucune manière, Seigneur, tu ne veux nous culpabiliser ce matin. En aucune manière, tu nous pointes du doigt. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu de douceur. Et même si parfois, quand tu reprends, ça fait un peu mal, c'est toujours dans le but de faire du bien, de nous faire grandir, Seigneur. Que ta parole nous aide à grandir ce matin. Amen. Un pharisien avait posé la question à Jésus en lui demandant « Quel est le commandement le plus grand de la loi ?» Alors la question était insidieuse. Le pharisien voulait coincer Jésus. Il voulait faire en sorte que Jésus fasse une différence dans la loi et trouver Jésus en défaut, de se dire « Mais attends, en fait, il n'y a aucun commandement plus grand. C'est la loi de Dieu, on doit la prendre en intégralité. » Et Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Et il ira même plus loin, il dira que dans ce commandement se résume toute la loi et les prophètes. Autrement dit, si on aime Dieu, si on aime notre prochain, alors on accomplit toute la loi de Dieu. Je pense que les choses seraient bien plus simples pour nous si on se concentrait sur une seule chose, aimer. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Et je suis quelqu'un qui fonctionne très bien, enfin, j'ai l'habitude pour comprendre quelque chose de me faire une image. Et l'image que je donnerais si je devais parler de ce qu'est un chrétien, si je devais dessiner un chrétien, ou même l'Église, je dessinerais un robinet. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? Ah, si je devais dessiner ce qu'est un chrétien, ou ce qu'est l'Église, je dessinerais un robinet. Ça fait couler de l'eau, effectivement. D'autres idées? Oui, on peut l'ouvrir et le fermer. C'est pas dans ce sens-là que je l'ai, mais effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec un robinet. En fait, l'idée, c'est que quand on fait couler un robinet, c'est pour avoir de l'eau au bout. Hein. On prend l'eau qui coule de manière verticale et on va la répandre d'une manière horizontale. Si vous ouvrez le robinet dans l'évier, vous allez voir que ça coule verticalement et puis ça s'étend horizontalement. Et le chrétien, tout enfant de Dieu, est un robinet. Il doit effectivement entretenir, comme Gaston l'a dit, la relation verticale, ma relation avec Dieu, mais aussi entretenir la relation horizontale. Si le robinet coule, c'est pas juste pour être une colonne. Si j'ouvre mon robinet, c'est pour prendre l'eau et m'en servir, arroser, boire, etc. C'est pas juste pour que, oh regardez, j'ai un beau robinet, regardez comme mon robinet coule bien. C'est aussi pour boire dans ce robinet. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Je vais trop vite, il me semble bien. On va recommencer. Hein. Non. Et donc, l'image de ce robinet, c'est vraiment pour nous dire que ma relation avec Dieu, je dois en prendre soin dans le but d'entretenir les relations horizontales. Être un beau chrétien qui prie bien, qui a fait X années d'études bibliques, qui connaît très bien sa Bible, qui a 52 ministères dans l'Église, c'est bien. Mais si je suis incapable d'avoir des bonnes relations fraternelles, alors ça ne sert à rien tout ça. Dieu a fait de moi un robinet afin que l'eau qui coule au travers de moi se répande autour de moi. Ma relation avec Dieu va déterminer la qualité de cette eau. Elle ne sera ni trop chaude ni trop froide, elle sera juste bonne pour les autres. Mais si je ne diffuse pas cette eau au travers de mes relations, ça ne sert strictement à rien. Je suis un robinet inutile. Et le texte que nous allons lire ce matin va un peu nous parler de ça. On va voir en fait à quel point la relation verticale est importante pour les relations horizontales. Je rappelle, la relation verticale, c'est moi et Dieu, et la relation horizontale, c'est moi et mon frère, moi et ma sœur. On ira donc dans Galates 5, le verset 25, et jusqu'au chapitre 6, verset 5. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, une autre traduction dira « alors qu'il n'est rien », il s'abuse lui-même, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, nous en pensant qu'on est mieux qu'un autre. Car chacun portera sa propre charge. Le titre que je donnerai à la prédication de ce matin, c'est « Une spiritualité au profit de la fraternité ». Une spiritualité au profit de la fraternité. J'aime beaucoup ce texte parce que Paul nous montre ce qu'est avoir de vraies relations fraternelles. Pas des relations superficielles, c'est pas juste dire bonjour, au revoir, c'est pas juste s'asseoir à côté l'un de l'autre, c'est se tourner l'un vers l'autre. Il nous dira aussi que être spirituel, c'est aimer. C'est simplement aimer. Dans ma formation à l'Institut biblique et dans le ministère pastoral, je posais la question à un ancien de notre église, à Couillet, et je disais, mais écoute, qu'est-ce que je dois faire pour être un meilleur prédicateur, un meilleur pasteur? Quelles sont les choses qui doivent changer en moi? Comment je dois me comporter vis-à-vis des autres? Quel horaire je dois établir? Et cet ancien m'a dit, écoute Fabien, c'est beaucoup plus simple que ça. Contente-toi d'aimer les autres. Contente-toi de les aimer, de les écouter, d'entendre leurs souffrances, d'entendre leurs questions, aussi d'entendre leur joie. Contente-toi d'aimer les autres. Et j'ai beaucoup aimé ce texte parce que c'est comme un soulagement pour moi. Paul n'est pas en train de dire que si vous voulez être un bon chrétien spirituel, vous devez avoir tous les dons de l'esprit, vous devez prier plus fort que l'autre, vous devez avoir converti au moins X personnes dans votre vie, vous devez avoir au moins chassé X démons ou peu importe nos conceptions religieuses, mais en tout cas, avoir fait plein de choses pour Dieu. Non. Être un chrétien spirituel, c'est aimer. Juste, simplement, aimer. Nous qui vivons dans une société de rentabilité, dans une société individuelle, c'est bon de se rappeler ça. Il y a une claire différence entre ce qu'on vit dans notre société et comment on doit vivre notre foi. Ce n'est pas une course à la rentabilité, ce n'est pas une course à l'efficacité. Dieu ne me demande pas de progresser dans ma vie spirituelle pour gagner des points, pour grimper en échelon. Il me demande simplement d'aimer et de le servir avec amour. Être compétent aux yeux de Dieu, c'est juste aimer. On parlera beaucoup de l'amour ce matin. Mais pour remettre un peu cette épître dans le contexte, Paul est en train de parler, en fait, donc aux chrétiens de Galate. La Galatie, c'était une région de l'Asie mineure. Et il se dresse, en fait, contre tous les juifs, les judaïsants qui étaient dans cette zone-là et qui disaient, si vous voulez être sauvés, vous devez vous remettre sous la loi de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, vous devez refaire des sacrifices, vous devez vous faire circoncire, vous devez manger cachère, etc. Et Paul est en train de dire ici, mais non, c'est... Au chapitre 3, Paul ira même plus fort, il dira que ceux qui se remettent sous la loi sont déchus de la grâce. Car nous sommes plus maintenant sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Une alliance de liberté, une alliance qui est résumée en un mot, aimer. C'est comme si on prenait les deux tables de la loi, qu'on effaçait tout et qu'on écrivait « aime ». Aime Dieu, aime ton prochain. L'une des caractéristiques principales de la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Paul en parlera beaucoup au chapitre 5. Il parlera, et c'est pour ça que j'ai pris le chapitre 20, verset 25, qui résume un peu tout le chapitre 5, quand Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Car une vie sous la Nouvelle Alliance, elle est marquée par une marche en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est bien de vivre par l'Esprit, Tout enfant né de nouveau, tout enfant de Dieu, vit par l'Esprit. L'Esprit est pleinement en lui. Mais nous devons aussi marcher par l'Esprit. Nous devons aussi le laisser nous conduire, avoir une relation avec lui. Nous sommes le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si je vis une relation spirituelle sans prendre en compte le Saint-Esprit, alors je vais être boiteux. Il va me manquer quelque chose dans ma relation avec Dieu. Je ne suis pas le sanctuaire de l'Esprit pour rien. L'Esprit doit vivre au travers de moi. Lors d'une convention, je vais aussi faire mon vieux Gaston, mais il y a quelques années de ça, quand j'étais encore jeune, il y avait une convention à Namur. Est-ce que c'était pas le CLAC qui avait organisé ça, une grande convention à Namur? Et le prédicateur avait dit, nous sommes le gant, et l'Esprit Saint, c'est la main dans le gant. Nous devons prendre conscience de ça. L'Esprit Saint a un rôle fondamental dans notre vie. Il doit animer notre vie. C'est d'ailleurs pour ça que l'Église a eu son expansion à la Pentecôte quand l'Esprit Saint est descendu, quand l'Esprit Saint s'est répandu sur toute chair. Je dis cela simplement parce que la différence entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, c'est cet Esprit Saint qui vit maintenant pleinement en nous et qui nous conduit à aimer l'autre. Être spirituel, c'est pas avoir X dons charismatiques, c'est aimer. On a l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans l'amour. Et Paul s'adresse donc ici aux Galates. Il montrera toute cette vie par l'Esprit ce que ça signifie. Et il s'adresse donc à une communauté chrétienne. Ça signifie que l'amour que je dois manifester, oui, c'est au travail, oui, c'est dans ma famille, mais c'est aussi, et peut-être même avant toute autre chose, dans ma communauté locale. Là où je me rassemble avec ceux avec qui je prie, avec qui j'ai pris le pain et le vin, avec qui je loue Dieu. L'amour doit surtout être manifesté ici. Au dernier camp de jeunes que j'ai fait, il y avait les jeunes qui aimaient s'appeler « Ouais, mon frère, mon frère, mon frère ». Et je pense que parfois, on banalise un peu cette réalité. Nous sommes véritablement des frères et sœurs. D'ailleurs, Paul commence comme ça et dira « Frère, mes frères ». Il appellera les Galates « Mes frères ». Pas que parce qu'il était juif et qu'il parlait à des juifs, Paul parlait aussi à des non-juifs. Il les appelle frères. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes une véritable famille. Et comme Gaston l'a dit, on a des devoirs les uns vis-à-vis des autres. Tout comme j'ai des devoirs vis-à-vis de mon frère charnel, de ma mère, de mon père. On a des devoirs, une responsabilité. On le verra un peu plus loin, c'est de porter les fardeaux les uns des autres. Et ce que je trouvais intéressant ici, c'est que quel endroit plus merveilleux que l'Église pour manifester l'amour? Il y a plein d'occasions pour manifester l'amour. Et quand je parle d'amour, je parle d'amour 1 Corinthiens 13. Peut-être juste nous le rappeler en vitesse, mais quand Paul dit que l'amour est patient, il y a plein d'occasions dans l'Église de manifester la patience. L'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, etc. Il y a plein d'occasions pour nous, au sein de la communauté que nous sommes, de manifester l'amour. Et parfois on entend dire, cette église, faut pas y aller, il y a des conflits, c'est pas bien. Une église où il y a des conflits, c'est pas une bonne église. Est-ce que vous connaissez une famille qui ne s'est jamais disputée? Est-ce que vous connaissez, bon, mis à part mon épouse et moi, un couple qui ne s'est jamais disputé? Ça n'existe pas. Tout couple, toute famille se dispute. Les conflits, c'est pas ce qui est mauvais dans l'Église. Au contraire, les conflits sont bons. C'est bien d'avoir des conflits. Pourquoi? Parce que chaque conflit va mettre en avant un problème qui doit être réglé. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Le fer aiguise le fer. L'apôtre Pierre prendra l'image de l'or qu'on doit éprouver par le feu pour en donner une plus belle valeur. Les conflits sont bons. Ce qui tue l'Église, c'est pas les conflits. C'est le manque d'amour. C'est ça qui tue l'Église. Le manque d'amour va faire que là où il y a une brèche, là où il y a une fissure, pardon, on va en faire une brèche. Et l'ennemi, lui qui s'était creusé une petite fissure, on lui ouvre grand les portes pour venir semer la zizanie. Le problème, ce n'est pas les conflits, mais le manque d'amour. Il n'y a rien de plus excellent que l'amour pour grandir spirituellement. Il n'y a rien de plus excellent que l'amour pour grandir spirituellement. Et Paul va mettre en avant cette réalité au travers du verset 1. Mes frères ou frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. On le verra plus en profondeur tout à l'heure, mais ça veut dire, si quelqu'un a péché, ton rôle en tant que frère, ton rôle en tant que sœur, c'est de l'aider à sortir de son péché. De l'aider à se repentir et donc de faire de lui un enfant de Dieu qui aura grandi, qui se sera rendu compte de son erreur, qui aura demandé pardon et qui aura grandi. Mais avant de rentrer en détail dans ce verset 1, Paul nous parlera aussi, notamment au travers du verset 26 du chapitre 5, mais aussi du verset 3 au chapitre 6, qu'il y a l'ennemi juré de l'amour. Et il nommera cet ennemi l'orgueil. L'orgueil est le pire ennemi des relations fraternelles. Parce que l'orgueil, c'est ce qui se dresse contre toute forme de spiritualité. Être orgueilleux, c'est mettre sa nature sans Dieu à la première place dans notre vie. Je l'ai dit tout à l'heure, la caractéristique de la nouvelle alliance, c'est la vie de l'Esprit qui vient habiter en nous. Toute personne qui n'est pas convertie, qui n'a pas donné son cœur à Dieu, vit dans sa nature qu'on appelle la nature charnelle, la nature sans Dieu, une nature qui est rebelle à Dieu, une nature qui ne sait pas accepter Dieu, une nature qui considérera que je suis plus important que l'autre. Mais une fois qu'on devient chrétien, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et notre responsabilité, l'étape que l'on doit faire, c'est crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. Paul le dira au verset 24 du chapitre 5. C'est ça devenir enfant de Dieu. C'est mon ancienne nature, elle est crucifiée. Maintenant je vis selon la nature que Dieu a placée en moi. Cette semence incorruptible que nous avons lue tout à l'heure. Nous avons la capacité de dire, ce n'est plus moi qui compte, c'est Dieu et l'autre. À chaque fois que notre orgueil va prendre place dans notre vie, la nature le Saint-Esprit, va commencer à se faire de plus en plus discret. On peut comparer ça à des aimants, en fait. Nous sommes, ou plutôt, prenons deux planètes. Et il y a un corps qui gravite entre ces deux planètes. Plus le corps va graviter autour d'une planète, plus il va être attiré par cette planète. Et plus il va se laisser attirer par l'autre planète, et plus il va s'éloigner l'un de l'autre. Vous me suivez? N'hésitez pas si jamais à me le dire. Et donc, quand on est de nouveau, on gravite autour de la nature spirituelle. On est en communion avec Dieu. Mais à chaque fois qu'on va se laisser influencer, soit par des pensées mauvaises qu'on nous donne, soit par de la jalousie, etc., on va tout doucement s'éloigner du centre gravitationnel de Dieu pour s'approcher et revenir et graviter autour de notre nature charnelle. C'est pour ça que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompt les bons mœurs. Plus je vais rester avec des gens qui méprisent Dieu, plus ça va m'éloigner de Dieu. Et donc, ici, pour l'orgueil, plus je vais donner des occasions à mon orgueil de s'exprimer, plus ça fera de moi, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui ne sera plus capable d'aimer l'autre. C'est pour ça que parfois, petite parenthèse, c'est si dur d'arrêter de mauvaises habitudes. On aura tellement nourri ça que l'attraction sera tellement forte qu'il va falloir se battre pour s'éloigner de cette attirance. Quand on crucifie notre passion, quand on crucifie notre chair avec ses passions et ses désirs, c'est qu'on a accepté de placer Dieu au centre de notre vie. On fera comme Jésus. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Si Jésus s'est rabaissé à ça, qui sommes-nous pour exiger de notre frère, de notre sœur qu'il nous serve? Jésus qui a été jusqu'à laver les pieds de ses disciples, qui sommes-nous pour exiger quelque chose de notre frère ou de notre sœur? Ce que nous voulons voir chez l'autre, soyons d'abord prêts à le faire nous-mêmes. C'est ce que Jésus a enseigné en lavant les pieds. Je dois accepter de placer avec joie. Je dois accepter de me placer avec joie au service de mon frère, au service de ma sœur. Il ne s'agit pas ici d'un devoir à accomplir, comme, mais voilà, mais faut bien travailler, alors je me lève tous les matins, j'ai pas envie, mais je vais travailler. C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas, écoute, t'as pas envie, mais bon, fais-le quand même, quoi. Fais le minimum syndical, fais-le. Non. On a parlé tout à l'heure du robinet. Je me rends compte que je parle vite encore, hein. On a parlé tout à l'heure du robinet. Pour que l'eau puisse se répandre, il faut d'abord qu'elle coule. Quand j'ai une bonne relation avec Dieu, quand je passe du temps avec Dieu, alors je vais être capable d'aimer l'autre. Mais si j'agis de manière religieuse, en fait, le robinet, il est fermé, comme une sœur l'a dit. On a, oui, une bonne apparence du chrétien, mais on est vide à l'intérieur. C'est comme une enveloppe avec écrit dedans, ici, à l'intérieur, vous avez un chèque de 1 million d'euros. Vous êtes content, vous voyez ça, puis vous ouvrez, bon, en fait, il n'y a rien dedans. Le chrétien orgueilleux, il est comme ça. Une belle apparence, mais c'est vide de toute chose. Mais comment se manifeste cet orgueil? Paul va parler, en fait, de... Si tu peux y passer... Ah ben non, c'est bon, verset 26, excuse-moi, pardon. Il parlera de se provoquer les uns les autres et de se porter jalousie. Celui qui provoque, c'est celui qui dit « Personne n'est meilleur que moi ». Alors, soit, imaginez que je suis orgueilleux, hein, je vais dire « Oh, il n'y a pas meilleur pasteur que moi ». Alors, je laisserai personne prendre ma place. Parce que, ben, personne ne peut faire ça mieux que moi, alors pourquoi je laisserais quelqu'un d'autre le faire? Je donne l'exemple d'un pasteur, mais on peut voir n'importe quel autre exemple. Ou alors, je vais dire, ok, je vais montrer que je suis meilleur que les autres, je vais laisser des gens prêcher à ma place, et après, je vais dire aux gens de l'église, c'était pas terrible sa prédication, hein, c'était pas si bien, regarde, il parlait trop vite, j'ai rien compris. Si jamais des personnes vous disent que j'ai parlé trop vite, ne le prenez pas comme ça, hein. Et donc, ben, parce que personne ne peut être meilleur que moi, je vais nourrir des médisances. Je vais essayer de rabaisser l'autre. Celui qui est jaloux, c'est celui qui dit, personne n'a le droit d'être meilleur que moi. Il y a une différence. L'un dit, personne n'est meilleur que moi. L'autre dit, personne n'a le droit d'être meilleur que moi. Et donc, quand quelqu'un va venir, et qu'effectivement on va trouver, oh, il a bien prêché, nous on va dire, t'es sûr? Non, c'était pas si bien que ça quand même. Ou alors on va être mal, on va être triste, on va se dire, oh mais c'est pas possible, et on va nourrir des mauvaises pensées vis-à-vis de l'autre. Car personne n'a quand même le droit d'être meilleur que moi. Ça c'est l'orgueil qui tue les églises. Parce que des gens ne peuvent pas prendre la place que Dieu leur a confiée, parce que d'autres bouchent cette place. On ne laisse pas la place, parce qu'on est orgueilleux. Ou alors on détruit les autres. Il y a... Cette jalousie, on la voit aussi parfois avec les différences de génération. J'accable ni l'une ni l'autre, mais étant jeune, je vais parler un petit peu de mon côté, hein, je vais tirer la couverture de mon côté, mais je trouve que dans certaines églises, les jeunes ont du mal à prendre leur place. Parce que certaines personnes n'ont pas le courage ou peut-être l'humilité de leur faire confiance. Et quand des jeunes viennent et qu'ils font la moindre erreur, on leur rentre dedans. Parce qu'on n'a pas eu l'humilité de leur faire confiance. On a le droit à l'erreur. On est une famille. On a le droit à l'erreur, qu'on soit jeune ou pas jeune, ceci dit. Et donc, l'orgueil détruit la vie d'église. Elle tue le poussin dans l'œuf. Rien ne peut naître de ça, parce que avant même que ça vienne, c'est déjà mort. Et donc, pour lutter contre l'orgueil, l'apôtre Paul fera un constat très simple. Au verset 3 du chapitre 6, il va remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Si quelqu'un pense être quelque chose, si tu penses être un grand prédicateur, un grand ancien, un grand responsable de jeunes, c'est bien. Mais en fait, tu n'es rien. Tu n'es rien. Comme l'a rappelé Gaston au début, ce que je fais, ce n'est que grâce de Dieu. Dieu accepte de se servir de moi. Mais quelle humilité de la part de Dieu. Il accepte de se servir de moi. Jean 15, Jésus dira que si on ne demeure pas en lui, il nous est impossible de porter du fruit. Tout ce que notre vie produit ne dépend que de Jésus-Christ seulement. Cette image, ce verset 6, je dis, je fonctionne beaucoup par image, m'a rappelé quand j'étais vraiment enfant, 5-6 ans, j'aimais bien mettre un essuie sur mes épaules avec des pinces à linge, et je me croyais être un super-héros parce que j'avais une cape, et en fait c'était un bien essuie avec des pinces à linge. Mais quelqu'un d'orgueilleux n'est pas différent que cet enfant de 5 ans qui court dans la maison en criant Superman avec un essuie derrière le dos. Parce qu'il se croit être quelque chose alors qu'il n'est rien. Comme cet enfant croit être Superman, alors il n'est pas Superman. L'orgueil, c'est ça. On se trompe soi-même. Il dira, il s'abuse lui-même. Il n'est rien. Nous ne sommes rien. Ça ne veut pas dire qu'on doit se mépriser. Il ne s'agit pas de se taper en se disant tous les soirs, je ne suis rien, je ne suis rien. Ça veut dire simplement que nous sommes tous sur le même pied d'égalité devant Dieu. Que ce soit celui qui prend son temps pour laver le sol et faire en sorte que l'église soit propre, que ce soit celui qui est ancien, etc. Devant Dieu, nous sommes les mêmes. Je n'ai aucune raison de me glorifier. Je n'ai aucune raison de me glorifier. Tant qu'il y a de l'orgueil, les relations fraternelles ne pourront être que superficielles. Tant qu'il y a de l'orgueil, les relations fraternelles ne pourront être que superficielles. Et d'ailleurs, le verset 4 en parle aussi quand il dit « Et alors il aura, donc, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura un sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport aux autres. » Parce que ceux qui sont orgueilleux disent « Ah, ça va, je suis quand même, bon, je suis pas le meilleur prédicateur, mais celui qui a prêché dimanche passé, je suis quand même mieux que lui, donc ça va, ça me rassure. » C'est de l'orgueil ça aussi. C'est de l'orgueil. Écouter les autres pour voir, est-ce qu'il est mieux que moi ou pas. Et donc on se glorifie au détriment des autres. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a montré en fait que aimer, c'est indispensable à la vie chrétienne. Je ne peux pas être chrétien et ne pas aimer. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Jean dira, celui qui dit qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère, fait Dieu menteur. Comment peut-il aimer celui qu'il ne voit pas s'il n'est pas capable d'aimer celui qu'il voit? On a un Dieu d'amour, l'Église doit être une Église d'amour. Et, le reste qu'on a vu en premier, et on vient de voir ici en fait que l'orgueil c'est le pire ennemi des relations fraternelles. Qu'il n'y a rien de pire que l'orgueil. On a vu en fait deux opposés. Aimer l'autre, s'aimer soi. Aimer l'autre, un amour divin. S'aimer soi, un amour humain. On va voir maintenant la question de vivre des relations ensemble. Je vais accélérer. Savez-vous, c'est une question rhétorique, mais savez-vous pourquoi il ne peut y avoir de vraies relations, des relations fraternelles véritables, sans que l'on porte le fardeau de l'autre? Simplement parce que l'apôtre Paul, dans ce texte, parle du principe que l'on porte tous un fardeau en nous. Ce matin, vous vous êtes dit bonjour, vous avez parlé à certaines personnes. Chaque personne que vous avez croisée, ne fût-ce que du regard, porte en lui un fardeau. Personne n'est à l'abri de ça. Paul ne dit pas, il ne dit pas portez les fardeaux de ceux qui souffrent. Portez les fardeaux les uns des autres. On a tous des fardeaux. Et le mot grec de fardeau est très intéressant. C'est le mot boros, qui signifie un poids qu'on ne sait pas porter seul. Ça veut dire que, on va prendre 30 secondes. Juste tournez la tête et regardez-vous. Soyez pas timide, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, dites-vous que tous ceux que vous avez croisés du regard, si vous ne leur venez pas en aide, un jour ou l'autre, ils finiront écrasés par leur fardeau. Si on ne leur vient pas en aide, un jour ou l'autre, ce fardeau va nous écraser. C'est inévitable. C'est pour ça que Dieu a fait que l'Église soit un corps. Il y a une interdépendance. Il n'y a aucune place pour le chrétien solitaire dans le plan de Dieu. J'ai besoin de Dieu, mais j'ai surtout j'ai besoin de Dieu et j'ai besoin de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité là que Dieu ne fera pas à notre place. Cette responsabilité de porter le fardeau les uns des autres, Dieu ne le fera pas à notre place. Ce fardeau fait partie intégrante de notre vie. C'est ce qui fait que parfois l'autre est de mauvaise humeur. C'est ce qui fait que parfois, ben, l'autre, ben, tiens, ça fait un petit temps qu'on ne l'a plus vu, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui fait que parfois, tout d'un coup, l'autre se met à pleurer, alors que c'était un moment de louange, que c'était agréable. Ce qui fait que parfois, ben, l'autre, ben, on lui dit ça va, il ne répond même pas, et parfois on se dit, mais t'as vu celui-là, mais quel sale caractère? Alors que si ça tombe, il y avait un truc tragique dans son cœur. C'est pour ça que l'orgueil doit disparaître de nos vies. Je reste convaincu que plusieurs dépressions auraient pu être évitées si des frères et sœurs avaient été soutenus par les autres. Mais bien sûr, au-delà de l'aspect psychologique qui fait que certaines dépressions nécessitent un traitement médicamenteux, il y en a d'autres où juste le soutien fraternel est suffisant. Savoir qu'on n'est pas seul. Savoir que les autres sont là. Savoir que je peux être vrai, savoir que cette chose dont j'ai honte, je peux la partager sans être jugé. Voilà donc pourquoi il ne peut pas y avoir de vraie relation sans porter le fardeau de l'autre. Car le fardeau de l'autre fait ce qu'il est. Si je suis offensé par l'attitude de l'autre, c'est que je ne suis pas capable de prendre part ou de porter son fardeau. En d'autres mots, porter le fardeau les uns des autres signifie que nous sommes le gardien de notre frère, le gardien de notre sœur. J'ai un devoir de protection vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur. Ça signifie que ma négligence va indirectement impacter la vie de l'autre. Et on aura des comptes, car chacun portera sa charge. Le mot « charge », c'est le mot « fortion » en grec, qui signifie une charge que l'on peut porter. C'est pas la même chose, il n'y a pas de contradiction avec le verset 2. Là, Paul dit, ce que je vous ai dit au verset 2, c'est votre charge, la charge que vous devez porter, c'est votre responsabilité. D'ailleurs, d'autres, certaines traductions, mais voilà, dans ma traduction, j'ai « car chacun portera sa propre responsabilité ». On comparaîtra tous devant Dieu. Certains pour le jugement, et les enfants de Dieu, on aura quand même des comptes à rendre. Dieu dira, tu te souviens de cette église là où tu étais? Tu te souviens de ce frère que tu n'as plus vu pendant X temps? Qu'as-tu fait pour lui? Ou tu te souviens de celui-là qui était en colère et tu t'es énervé sur lui? Pourquoi tu ne l'as pas écouté plutôt? Pourquoi tu n'as pas vu au-delà de sa colère? On aura des comptes à rendre devant Dieu de notre attitude les uns vis-à-vis des autres. La foi chrétienne, ce n'est pas juste moi et Dieu. Au contraire, même ma relation intime avec Dieu, repensez au robinet, a pour but d'entretenir des relations fraternelles, des relations horizontales. Si je ne sais pas prendre soin de mon frère, de ma sœur, c'est que ma relation avec Dieu ne va pas bien. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de meilleur thermostat pour voir la température de notre spiritualité que nos relations fraternelles. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui fait que, je dois vous avouer, je vous ai menti au début, il nous est arrivé, mon épouse et moi, de se disputer quelques fois. Et c'est lui, en fait, ces disputes, à chaque fois, nous permettent en fait de se dire, ah oui, c'est vrai, ça fait un petit temps qu'on n'a plus prié ensemble. Ça fait un petit temps que notre relation devant Dieu n'était pas correcte. Et donc, ça va impacter ma relation de couple ou ma relation de famille avec mes frères et sœurs. Si je suis incapable d'avoir des bonnes relations fraternelles, c'est pas forcément à cause de l'autre. C'est peut-être aussi parce que ma relation avec Dieu ne va pas. Mais, pour vous soulager, on a un Dieu d'amour, hein. L'apôtre Paul a dit aussi, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Après, si l'autre veut pas, il veut pas, hein. Il s'agit pas de le coller derrière lui tout le temps, non. S'il veut pas, il veut pas. Laissons-le tranquille. Mais dans notre cœur, ne nourrissons pas de jalousie, de colère parce que l'autre n'a pas voulu nous écouter. S'il veut pas être en paix, laissons-le. Mais nous-mêmes, soyons en or devant Dieu. Voilà donc pourquoi il ne peut pas y avoir de relation fraternelle véritable sans porter le fardeau les uns des autres. Maintenant, pour finir et pour conclure, un peu de concret quand même. On va prendre l'exemple 1 et l'examiner rapidement. Que faire si on vient de surprendre un frère en train de pécher? Bonne question, n'est-ce pas? Bon, le problème, c'est que Vous avez déjà la réponse, en fait. Mais... Donc, du coup, ne répondez pas. Hein. Imaginez maintenant que quelqu'un vient vous voir. Bon, j'espère pas après ce culte, et même j'espère jamais, parce que l'exemple que j'ai pris est un exemple très grave, mais il dit, écoute, mon frère, j'ai commis l'adultère. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, le frère, concrètement, est en train de nous partager un fardeau. Frère, sœur, écoute, je vais rester poli, j'ai fait une grosse bêtise et j'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari. Là, clairement, il nous partage un fardeau. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul parle ici d'un péché, parce que le fardeau, on ne doit pas forcément porter le fardeau de celui qui n'y peut rien. Oh, le pauvre, t'as vu, il a perdu son métier, il a à peine le chômage, il a à peine de quoi vivre, il faut l'aider. Il ne s'agit pas d'aider ceux qui font pitié, mais aussi d'aider ceux qui l'ont peut-être mérité. On t'avait dit de ne pas faire ça, tu l'as quand même fait. On fait quoi? On va dire, bah, écoute, débrouille-toi maintenant. Non, c'est aussi l'aider. Si on a vu un frère en train de pécher, on doit l'aider. Que faire avec ce frère ou cette sœur qui a commis l'adultère? Est-ce que Dieu est en train de nous dire, écoute, ben, tu dois peut-être t'improviser comme conseiller conjugal? De se dire, ben, écoute, ok, bon, je t'écoute, et tu vas venir deux fois par semaine à la maison, hein, puis après un mois, ta femme va venir, on va essayer de régler ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas de s'improviser conseiller conjugal ou de s'improviser psychiatre ou de s'improviser psychologue. Pas du tout. On doit garder en tête que le frère et la sœur qui a péché a besoin de Jésus et pas de nous. C'est Jésus la solution, c'est pas nous. Mon devoir, c'est un peu pour... Est-ce que vous avez tous en tête les amis du paralytique qui ont amené le paralytique à Jésus? Ses amis avaient un ami paralytique. Et ils arrivent devant la maison de Pierre, et impossible de passer, il y a une grande foule. Et ben, ils auraient pu très bien dire, écoute, ben, on t'a déjà porté depuis un paquet de kilomètres, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait, ça fait quelques kilomètres qu'on te supporte, il y a de la foule, t'as bien vu, allez, on va quand même pas te ramener, on te laisse là, hein, nous on s'en va. Ils auraient pu dire ça, et parfois on est comme ça. On écoute un frère, et puis on dit notre patience s'use, et on se dit, oh, écoute, j'en ai marre, quoi, fous-moi la paix maintenant. Et donc on laisse le paralytique là, gire sur le sol et ne plus s'en occuper. Mais les amis des paralytiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé une autre solution. Ils savaient que Jésus seul pouvait le guérir. Alors ils ont fait des pieds et des mains pour amener leur ami auprès de Jésus. Ils ont passé par le toit. C'est pas comme maintenant où il y a des escaliers de secours. Il fallait s'imaginer que ça devait être galère de monter avec un grabat, avec une civière, merci, sur un toit. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour conduire ce frère devant Jésus. Et ce qui est très intéressant dans la réponse de Jésus, c'est que c'est la foi de leurs amis a guéri le paralytique. Jésus a dit, votre foi l'a sauvé. Je paraphrase. Il n'a pas dit, voilà, au paralytique, non, le paralytique, il n'y est pour rien. Ça veut dire que le frère ou la sœur qui n'est plus capable d'avoir une relation avec Dieu à cause de son fardeau, à cause de son péché, a besoin de ma foi, a besoin de ma relation avec Dieu pour le ramener à Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Nous ne sommes pas Superman, nous ne sommes pas des super-héros. Il y a des situations où on n'aura aucune réponse à apporter. Peut-être prie, simplement prie, tous les jours pour lui. Prendre ses nouvelles, va le visiter. Je laisse aussi votre imagination trouver des solutions à ça. Mais donc, au travers du verset 1, Paul montre qui doit agir. Qui est capable d'agir pour porter le fardeau des uns des autres? Il dira, les spirituels. C'est pas du sarcasme ici. Paul n'est pas en train de dire, ouais, vous qui vous croyez spirituels. Non, non, il est vraiment en train de dire, vous qui êtes remplis de la vie de l'esprit, c'est à vous d'intervenir. Voilà pourquoi la relation verticale est fondamentale. Le spirituel, c'est celui qui a crucifié sa chair avec ses passions et ses désirs, celui qui considère l'autre comme plus important que lui. Celui qui, comme Paul le dira au chapitre 5, les versets 22 à 23, celui qui porte le fruit de l'esprit, c'est-à-dire qui est rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur et de maîtrise de soi. Toutes ces choses sont des qualités indispensables pour porter le fardeau les uns des autres. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une spiritualité au profit de la fraternité. Si j'ai tous ces fruits, c'est pas pour être une belle grosse grappe de raisin bien portante, mais c'est pour que l'autre puisse goûter à ces fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi. Prenons l'exemple des amis du paralytique. Douceur, maîtrise de soi. Faire pour l'autre ce que lui-même n'est plus capable de faire. Mais que doit faire le spirituel? Il doit l'aider à se rétablir. Quand il dit « redressez-le avec un esprit de douceur », le mot « redressez-le » est encore une fois très intéressant. C'est le même mot, en fait il s'agit littéralement de le remettre à sa place initiale. C'est comme ça qu'on guérit un os brisé. L'os il est comme ça, on va hop, on va réaligner le tout, et le corps peut retravailler naturellement et ressouder l'os lui-même. Notre devoir, c'est de faire en sorte que le frère, la sœur qui a commis un péché, je puisse le replacer sous la grâce de Dieu. Pas le condamner, pas le pointer du doigt, pas l'accabler, le replacer sous la grâce de Dieu, en étant moi-même un moyen de grâce pour lui. Le péché va nous séparer de Dieu. Et lui seul peut nous rattacher à lui. Le frère, la sœur ne péchera jamais contre moi. Moi, il m'offense. Oui, il m'offense, mais il ne pêche pas contre moi. On ne pêche que contre Dieu seul. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une repentance de la part du pécheur. On doit le conduire sur le chemin de la repentance. Mais notre devoir, c'est de l'amener à la solution, à Jésus-Christ, et pas à nous. Autrement dit, le spirituel doit accompagner le frère qui a péché vers le chemin de la repentance. Et comment doit-il le faire? Dernier point. Avec un esprit de douceur. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques du fruit d'esprit, la douceur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Un frère m'a dit un jour que l'Église, c'est la seule armée qui achève ses morts. L'Église, c'est la seule armée qui achève ses morts. Ses blessés, pardon. Je comprends le regard dubitatif. L'Église, c'est la seule armée, pardon, qui achève ses blessés. Et je pense que la raison de cette tragédie, c'est que certaines personnes se mettent à la place de Jésus. Ils outrepassent leurs compétences, ils outrepassent le devoir qu'ils ont vis-à-vis des autres. Et ils veulent être la solution, alors que Jésus est la solution. Et alors, on va près de ce frère avec tout notre orgueil, on le pointe du doigt, on le condamne, on l'accuse, et on voit des gens qui sont dévastés encore plus que ce qu'ils n'étaient jusque-là. Mais Paul dira, peu importe le péché de ton frère, toi qui es son frère, sa sœur, rétablis-le avec douceur. En conclusion, notre responsabilité est double. Repensons à ce robinet. Je dois veiller à ce que ma santé spirituelle soit à son meilleur niveau, passer du temps avec Dieu. Veiller à ce que ma nature charnelle reste morte, à ce que l'intérêt de Dieu soit prioritaire dans ma vie. Deuxièmement, je dois veiller à prendre soin de mon frère et de ma sœur, veiller à être capable de porter son fardeau. Sinon, je n'accomplis pas la loi du Christ. Si j'aime juste Dieu et tant pis pour les autres, je ne vis pas comme un chrétien, je ne vis pas comme un disciple de Jésus-Christ. N'attendons pas le dimanche matin pour faire ça. D'ailleurs, on n'a même pas le temps le dimanche matin pour le faire. On a 6 jours sur la semaine pour le faire. 6 jours. 6 fois 24. Je laisse les étudiants calculer. 6 fois 24. Ça en fait un paquet d'heures pour porter le fardeau de l'autre. Et parfois, on ne trouve même pas le temps en un mois de le faire. Il ne s'agit pas ici de... Je ne parle pas pour le dimanche matin. On est une famille, on n'est pas une famille que le dimanche matin. C'est toute la semaine. C'est aller voir l'autre. Peut-être faire des prières en maison, que sais-je. N'attendons pas le dimanche matin pour nous voir. Faisons de notre communauté, je pique le titre à Larry Crabb, mais faisons de notre communauté l'endroit le plus sûr au monde. C'est le plan de Dieu. Imaginez-vous, l'ennemi nous attaque. Je peux trouver du renfort dans l'Église, un soutien. Jésus veut que l'Église soit la réponse de Dieu au monde. Elle doit être sel et lumière du monde. Mais les premiers bénéficiaires de cet amour ne devraient pas être les gens de l'extérieur. Moi, j'aime beaucoup les grandes séances d'évangélisation. Mais que faire de ces 10, 15 nouveaux convertis qui ont rencontré véritablement Jésus à leur conversion, qui arrivent dans l'église et dans l'église, ils trouvent autre chose que Jésus-Christ? Ils voient des gens qui médisent. Ils voient des gens qui tirent la tête, ils voient de la colère, ils voient des disputes, ils se disent, mais attends, il est où Jésus que j'ai rencontré ici? Faisons de notre église l'endroit le plus sûr au monde, en portant les fardeaux les uns des autres. Notre objectif en tant que croyants est de vivre une spiritualité qui est au profit de la fraternité. Et seulement ainsi, nous accomplirons la loi du Christ. J'aimerais prier pour finir. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu connais nos défauts, tu connais nos lacunes, Seigneur, et tu sais à quel point nous devons encore progresser pour pouvoir porter le fardeau les uns des autres. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu fais des lignes droites avec nos courbes. Tu combles nos fautes. Merci parce que tu consoles la sœur que j'ai négligée, la sœur que j'ai ignorée, le frère que j'ai négligé. Mais je te prie, Seigneur, que qu'ici à Otigny et partout ailleurs où tes enfants se rassemblent, Père, ils puissent vivre cette vie extraordinaire où abonde le fruit de l'esprit, où abonde l'amour, où abonde la joie. Fais de nos églises, Seigneur, des véritables églises spirituelles. Là où ce que tu es jaillit. Fais de nos églises, Seigneur, l'endroit où on peut te rencontrer pleinement. Que nous puissions aussi, pour reprendre une image, tourner les chaises les uns vers les autres. Pas juste vers ta parole, mais aussi les uns vers les autres, Seigneur. Pour mettre en pratique ta parole. Je te prie, Père, que tu nous fortifies, que tu nous conduises, que tu consoles les cœurs accablés ce matin. Tu n'ignores rien de nous, Seigneur, et je te prie d'apaiser ceux qui souffrent ce matin. Ceux qui sont accablés par un fardeau. Que ce soit un péché qui a été commis, que ce soit une épreuve extérieure, que ce soit de la colère, peu importe, Seigneur, viens libérer nos cœurs, viens nous mettre en paix devant toi. Conduis-nous sur le chemin de la sanctification, afin que cette communauté soit reconnue comme un endroit débordant d'amour, un amour qu'on ne voit nulle part ailleurs dans le monde. Car quand tu es venu sur cette terre, Seigneur, le monde a constaté que tu étais différent de tout ce qu'ils avaient vu. Conduis-nous, Père, dans cette démarche afin de te glorifier, toi et toi seul, et que nos vies portent du fruit. Amen.